Il y a des romans qui ont un truc. On ne voit pas forcément de quoi il s'agit, mais on le sent, très vite d'ailleurs, et on enchaîne les pages autant pour avancer dans l'histoire que pour voir comment l'auteur lui-même y avance. En se demandant d'ailleurs s'il ne va pas finir par s'y perdre. Quand on est convaincu du contraire, on fonce encore plus vite, bref, le poisson est ferré, ça vient de m'arriver, et pourtant, ça commence avec un genre de truc dont je ne raffole pas vraiment, même quand c'est Tarantino au cinéma, ça finit par me gonfler. Le sabre. Et je pense à Tarantino parce que nous voilà face à une jeune femme en plein exercice de sabre. Pour les puristes, c'est un wakizashi de l'époque Edo. Elle maniait le bokken avec douceur et fluidité dans la lumière gazeuse de fin d'après-midi, vêtue d'un t-shirt en jersey de coton blanc qu'elle réservait à la pratique du iaido. Elle répéta plusieurs fois diverses techniques séculaires de combat, précises et concentrées. L'exercice terminé, elle rangea le sabre en bois sur son support et s'inclina respectueusement pour saluer la mémoire de Miyamoto Musashi et des grands maîtres de l'art du katana. Musashi était le plus grand combattant qu'ait connu le Japon et Karen s'imaginait souvent visiter le sanctuaire qui lui était dédié à Kyoto. Il y a des romans qui ont un sabre, donc, et un truc. Ce truc, c'est peut-être le flic Luke Hackman, surnommé Wolf par ses collègues de la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres. L'instinct animal, le solitaire dans la meute, en plus de la ressemblance physique et de l'homophonie entre son nom et celui de l'acteur qui jouait Wolverine au cinéma. Ce truc, c'est peut-être aussi le truc de Wolf. Quand il en avait le temps, il arrivait à Wolf de chercher sur le réseau global des informations hors du commun, car il avait l'impression qu'elle lui parlait du monde de façon intelligible, quand bien même elles étaient tout à fait absurdes et complètement falsifiées. Wolf se servait de ces anecdotes bizarres pour rendre compte à son supérieur, sans bien savoir si celui-ci goûtait l'ironie des parallèles et des synchronicités tordues ou le prenait pour un demeuré. Sans doute un peu les deux. Ce truc, c'est aussi la coéquipière de Wolf, Silver, ça ne s'invente pas, autre surnom en référence à l'univers de Marvel pour une jeune femme d'origine laotienne dont on ne connaissait pas grand-chose mais qui savait se faire craindre. Enfin, le truc de ce roman, c'est la rencontre entre ces trois-là. Wolf et Silver sont appelés pour un homicide rue de Bagnolet, numéro 78. Une tête, celle de Stéphane Barr, séparée du reste du corps, un sabre, et une fille assise sur une chaise pliante, calée contre le mur, entre deux flics en tenue. Karen Tillier, qui dit à Wolf, c'est toi qui es dans une prison irrationnelle. Oublie Stéphane Barr, oublie le wakizashi, oublie-moi, expédie l'affaire, je ne ferai pas de vagues et tout continuera comme avant. L'alignement des équinoxes de Sébastien Rezer, série noire. Sébastien Rezer a pris au mot Aurélien Masson, le patron de la série noire. Il lui a écrit une vraie série noire. Une vraie série noire qui nous entraîne sur les traces du faux, à l'image de cette anecdote repérée par Wolf à propos de chercheurs américains ayant réussi à implanter de faux souvenirs chez des souris. Une vraie série noire qui confronte des flics bien vrais à un criminel échappé du réel. Le tout résonnant à la fois de la musique lancinante de Kraftwerk et de celle massive et rugueuse selon l'auteur de The Jim Jones Revue. L'alignement des équinoxes, un roman réellement non aligné. Lisez bien avec mes salutations les plus noires et avec que Jim Jones Revue, avec lesquels on se quitte aujourd'hui, avec quelques notes d'un morceau que reconnaîtront les auditrices et auditeurs de PFM, en particulier de Variations en noir, dans Variations, le dernier vendredi de chaque mois. We'll be right back.